Horaire des marées à Saint-Malo. 23 septembre. Marée basse, 0h59. Marée haute, 6h38. Marée basse, 13h14. Marée haute, 18h48. Prologue. 23 septembre. Saint-Malo. Quelque part en mer entre l'île Harbour et Sésambre, un peu avant midi. Tout autour de lui, la mer s'ingéniait à restituer ce vert émeraude vanté par les dépliants touristiques qu'il avait lui-même validé. En un sens, cette eau incomparable lui devait sa réputation flatteuse. Ce n'était pas rien de façonner ainsi le paysage. Tel était son pouvoir, et depuis qu'il l'exerçait, il en appréciait chaque minute et chaque prérogative. Une main dans sa tignasse grise raidie par les embruns, l'autre sur la barre, il vira de bord et orienta son petit catamaran au près, en direction du large. Il se donnait encore une heure pour naviguer dans la baie de Saint-Malo. Sans doute frôlerait-il comme à chaque fois ses ambres avant de retourner vers la plage. Toujours la même boucle. À vrai dire, le quinquagénaire n'aimait pas naviguer plus que ça. Mais pour le malouin d'adoption qu'il était, afficher une passion pour la voile lui semblait s'inscrire dans ce que ses administrés attendaient de lui. Ainsi, plus breton que les bretons de souche, croyait-il, il prenait la mer tous les samedis matins, depuis 12 ans. Au fil du temps, il avait même poussé son fils Théo, aujourd'hui âgé de 17 ans, à s'inscrire lui aussi à l'école de voile de Bon Secours, là où il louait son bateau. Important aussi pour l'image d'être un simple voileux, pas un riche plaisancier propriétaire de son embarcation. Souvent, son rejeton l'accompagnait dans ses sorties. Mais depuis qu'il s'était vu contraint de placer celui-ci en pension, loin de là, en région parisienne, Théo ne partageait plus son loisir obligatoire. C'est seul qu'il sacrifiait à son venteux pinsum. Était-ce si pénible qu'il le confessait en privé? Pas vraiment. Sur l'eau aux nuances si changeantes, nappée d'écume, cette matinée de septembre lui offrait au contraire un temps calme qu'il apprécia sans réserve. Les occasions de s'arracher aux servitudes de sa fonction n'étaient pas si nombreuses. Lui, l'homme au perpétuel sourire commercial, caméléon social, il goûtait ces moments où il pouvait ruminer en paix sans avoir à jouer le moindre rôle. La brise marine, la lumière bleutée, les parfums de sel et de varech. Tous ses sens conspiraient pour remettre ses pensées à zéro. La déconnexion était presque totale. Pour preuve, il avait pour une fois omis de prendre sur lui l'un de ses trois portables, les deux pros et son perso. Il fallait au moins ça pour dissiper ses tracas actuels. Théo, donc, mais aussi Françoise et tous ces abrutis qui lui rendaient la vie impossible, du conseil municipal de la ville jusqu'à Matignon. Sans oublier les grandes échéances à venir. La prochaine édition de la Route du Rhum en novembre, mais surtout les municipales du printemps prochain, qui déjà battaient campagne et polluaient son action présente. Soudain, une rafale de travers manqua le faire chavirer. Il plaça le gouvernail vent debout, stoppant net son dériveur. Il demeura ainsi quelques instants, ballotté par la houle, comme suspendu dans le temps et l'espace. Puis, d'une pichenette sur la barre, il regonfla sa voile, et repartit à bâbord. Pour un amateur récalcitrant, songea-t-il, il n'assurait pas si mal. La plaisance avait au moins cette vertu, chasser les soucis par le vent du nord et regonfler les voiles de sa motivation. Après chacune de ses escapades, il se sentait capable de tout conquérir, bien au-delà de la cité corsaire qui s'élevait dans son dos. Si seulement on lui en avait laissé le loisir, il aurait pu faire tant de belles choses pour ce littoral. Et pas juste en Bretagne. Son esprit vagabond cabotait de Dunkerque à Menton. L'homme se laissait encore bercer par ses pensées douces amères quand il devina une première coque immaculée dansant sur l'horizon.
« Tiens, il est là, lui ?»
marmonna-t-il. Plusieurs coups de corne de brume en provenance de cette zone résonnèrent, sans qu'il ne comprenne la raison d'un tel signal d'alarme. Jusqu'à ce qu'un autre point, plus proche, et noir, celui-ci, n'apparaissent dans son champ de vision. L'objet mobile grossissait à vue d'œil, accompagné par le vrombissement caractéristique des moteurs hors bord. Négligeant toutes les règles de navigation, il fondait sur lui. « Qu'est-ce qu'il fout, ce con ? » Au second plan, il aperçut la silhouette blanche et délicate d'un kata à école, à peine plus petit que le sien. Mais celui-ci était trop distant pour qu'il en distinguât l'occupant. Car ce qui retenait toute son attention à présent était le zodiaque qui filait vers lui tel une torpille. Il avait beau tenir un cap parfaitement rectiligne, l'embarcation était vide de toute présence humaine à son bord. Un bateau fantôme ? Comment cela était-il possible ? Le barreur était-il tombé à l'eau ? Mais dans ce cas, comment cet esquif pouvait-il foncer ainsi, plein gaz et droit devant lui ? Très vite, l'inquiétude ressentie pour cet inconnu invisible céda la place à une peur panique pour lui-même. La main tremblante, il se mit à relancer sa navigation, hésitant plusieurs fois sur la direction à prendre. Après plusieurs changements intempestifs, il plaça son kata au large, à tribord. A priori, l'allure la plus rapide est donc la plus susceptible de le mettre hors de portée du projectile. Mais d'un coup d'œil par-dessus son épaule, il ne put que constater l'impensable. L'engin motorisé virait vers lui, comme s'il le visait. On aurait dit l'un de ces missiles à tête chercheuse dans les films de guerre hollywoodiens. Seules quelques dizaines de mètres les séparaient désormais, et le clap-clap du canot gonflable lancé à toute vitesse égrenait le compte à rebours d'un impact qu'il savait inévitable. Même au maximum des capacités de son voilier, il n'échapperait plus à son poursuivant. La cause était entendue. Et pourtant, le choc qui survint une poignée de secondes plus tard lui réserva encore une surprise. Les mains agrippées au cordage pour ne pas être éjecté, il s'attendait à un baiser ferme mais contenu entre sa coque en composite et la toile caoutchouteuse. À la place, une gerbe lumineuse fleurit au point de contact des deux navires, sorte de boule de feu surgissant des flots. Le souffle le propulsa lui-même dans les airs, puis il retomba de tout son poids sur le catamaran éventré. Le gilet de sauvetage ne lui fut pas d'un grand secours en la circonstance. Au moment de perdre connaissance, il ne put réprimer cette ultime observation, dérisoire. « Je vais mourir en mer, comme un vrai Breton. » Son successeur érigerait-il une statue à sa mémoire, quelque part dans un quartier neuf de Saint-Malo ? Chapitre 1. Saint-Malo, manoir des Korrigans, 4 heures plus tôt.
Une femme hurle à la mort !
Où ça, madame ?
En face de chez moi, venez vite !
C'est où, chez vous ?
Rue du Puy Sauvage, au hameau Saint-Étienne. Venez, je vous dis !
Voilà en quels termes Dodic Cadieu avait donné l'alarme depuis sa maison grise derrière ses rideaux gris, sous la frange grise de sa coupe au bol. Mais lorsque les pompiers déboulèrent sur son perron moins de 10 minutes plus tard, la caserne se trouvait aux abords de l'Intramuros, avenue Louis-Martin. Aucun cri n'était plus perceptible dans la voie champêtre en périphérie de Saint-Malo.
« Vous êtes certaine que ça venait du manoir des Korrigans ?»
s'enquit le chef d'équipe, sceptique.
« Absolument certaine ! Des hurlements affreux ! On aurait dit qu'on torturait quelqu'un !»
Ce disant, la face rubiconde de la sexagénaire enveloppée rivalisait avec le rouge du camion premier secours stationnant devant chez elle.
« Au téléphone, vous avez parlé d'une femme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»
Parce que ça montait dans les aigus, une vraie sirène !»
Par acquis de conscience, les 4 soldats du feu traversèrent la rue et, une fois devant la grille monumentale, actionnèrent la cloche en tirant sur la chaînette rouillée. Au-delà des barreaux se dressait le corps de bâtiment principal de la Malouinière, sur la droite de la cour, ainsi qu'un bel ensemble de dépendances sur la gauche. 2 ou 3 minutes s'écoulèrent avant qu'une dame vêtue d'un peignoir écossais et munie d'une canne ne se présente.
« Un problème, lieutenant ?»
Elle avait prononcé ce dernier mot avec un accent anglais prononcé, et quelque chose comme « lieutenant ». L'élégante septuagénaire au carré gris savait donc identifier les grades sur les galons qui frappaient leur poitrine.
« Bonjour, madame. Votre voisine nous a signalé des bruits suspects qui provenaient de chez vous un peu plus tôt. »«
Dame !»
s'écria-t'elle, contrariée.
« Quel bruit suspect ?»
Des cris de femmes, on nous a dit.
Des cris de...
Le rire de Maggie Korrigan éclata soudain comme un tonnerre, lui coupant à elle-même la chic.
Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?
S'agaça son interlocuteur.
Well, rassurez-moi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'autres motifs que la douleur à une expression incontrôlée de la voix, n'est-ce pas ?